Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, vous venez d'entendre notre petite musique, Charlie Brown. Nous sommes le mercredi 8 mars 2023, vous écoutez Au fil des pages, vous êtes sur Radio Libertaire, tout va pour le mieux. Merci de nous rejoindre sur les ondes de cette radio. C'est une émission Au fil des pages qui est proposée par des passionnés du livre et de la lecture. Aujourd'hui, Frédéric, Dominique, par téléphone, Marie, Francis et nos deux invités, Marie-Claire Calmu pour nous parler poésie issue de son dernier livre « Entre Vernon et Mantes » et par téléphone Isabelle Pivert, fondatrice et directrice des éditions du Sextant. De 17h à 18h30, vous pouvez nous retrouver du 2e et 4e mercredi de chaque mois sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste et en plus sur le net. Connectez-vous sur le site de Radio Libertaire en direct et en podcast. En mars, on lit et on lutte. Et nous étions tout à l'heure avec la manifestation des droits des femmes. Il y avait beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de jeunes tout court. Et on sentait ces garçons et ces filles et ces garçons hyper mobilisés. C'était très fort malgré une pluie assez farouche sur Paris. Avant de parler de nos lectures, Frédéric, est-ce que nous avons des annonces ou pas ?
Eh bien non, cette semaine, vous n'entendrez pas le son désagréable de ma voix. Je repasse le micro à Francis.
D'accord, donc pas d'annonce pour cette semaine. Alors, en plus de nous écouter, n'hésitez pas à nous écrire. Notre adresse postale, Librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Alors, au programme de cette émission, bien tout d'abord, pour alimenter le débat, comme d'habitude, Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi, pour le livre Djamila Boupacha aux éditions Gallimard, publié une première fois en 1962. Ensuite, Marie-Hélène Lafont, Les Sources, paru chez Buchet-Chastel en 2022. Et Marie-Claire Calmu, Entre Vernon et Mantes, j'en ai parlé à l'instant. Ensuite, Dialogue avec Isabelle Pivert. Puis, Dominique nous parlera des Cahiers de Lerne consacrés à Colette. Et je présenterai le livre « Le temps des féminismes » de Michel Perrault et Eduardo Castillo aux éditions Grasset. Un mot évidemment sur le monde libertaire. Mais vous avez pu le constater, c'est une émission qui est consacrée aux femmes. On en parle souvent des femmes au fil des pages, on en invite souvent. Et là... En attendant Marie, qui va nous rejoindre dans un instant, eh bien, je voudrais demander à Marie-Claire Calmu, tu nous as proposé un nouveau livre entre Vernon et Mantes. En une phrase, Vernon et Mantes, où est-ce ?
Eh bien, c'est dans l'Eure, enfin, Mantes, pas tout à fait, au bord de l'Eure. Vernon, oui, bien sûr. Et c'est une partie de la Normandie qui n'est pas très éloignée de Paris, à même pas 100 km. Mantes, ouais. Ça doit être 60. Et moi, j'habitais Fourges, à côté de Vernon, un peu plus de 80. Donc, c'est une espèce de banlieue, si l'on peut dire, verte, très belle, très... très verte et variée également, traversée de, non seulement de la Seine, mais avec des bords de Seine très célèbres, Véteuil, etc., la Roche-Guyon, mais des jolies rivières, et j'avais la chance d'habiter au bord de l'Epte, quasiment.
D'accord. Alors, au bord de l'Epte, le livre a comme couverture une photographie noir et blanc qui représente une jeune femme sur un ponton, sur une rivière, qui est l'Epte, évidemment.
Exactement. Ah. À deux doigts d'un moulin, d'ailleurs, je crois que c'est lui qu'on aperçoit, qui était très célèbre, le moulin de Fourges, qui était devenu, je crois, un restaurant, déjà à l'époque, et que les gens venaient visiter d'un peu loin, quelquefois, en même temps que Giverny, mais qu'on ne voyait à l'époque que de l'extérieur. C'était ouais. à 5 km de Giverny. On n'avait pas le tintamarre touristique qu'on a aujourd'hui provoqué depuis.
Alors, je te proposerai de nous lire quelques poèmes au cours de cette heure et demie. Je crois, Frédéric, que nous avons Marie en ligne. Est-ce que tu peux la passer à l'antenne ? Allô, Marie ?
Oui, oui.
Voilà. Alors, est-ce que tu peux parler éventuellement un peu plus fort ?
Oui, voilà. j'ai essayé. Voilà.
D'accord. Alors, lors de la précédente émission, tu nous avais présenté un catalogue passionnant qui était consacré à l'exposition parisienne citoyenne qui s'était déroulée au musée Carnavalet. Et aujourd'hui, oui. tu veux nous parler d'un livre qui a marqué la lutte des femmes, un livre oui. préfacé par Simone de Beauvoir, écrit par Gisèle Halimi, Djalima Boupacha. Qui est
Djalima Boupacha, oui.
Qui est Djalima Boupacha?
Alors, Djalima Boupacha, donc c'est une Algérienne de 23 ans qui est agent de liaison du FLN et qui a été arrêtée brutalement à son domicile par l'armée française le 10 février 1960. Elle est séquestrée, battue, brûlée et violée par les militaires français qui la déflorent avec une bouteille en verre. Elle subit également la gégène, hein, une torture particulièrement utilisée durant la guerre d'Algérie, hein, pour faire parler les félagas, entre autres. Elle est tellement brutalisée, en fait, qu'elle finit par avouer donc les faits qui lui sont reprochés. En fait, elle a été accusée d'avoir posé une bombe dans un café d'Alger, une bombe qui n'a jamais explosé, d'ailleurs. Et en conséquence de quoi, elle se retrouve présentée au tribunal hein, pour acte de terrorisme et encourt la peine de mort.
Elle est défendue par Gisèle Halimi ?
Tout à fait, tout à fait. Donc Gisèle Halimi arrive à Alger et justement tente donc de la défendre. Hein, mais le combat est très très difficile, notamment à cause des militaires hein, qui sont terriblement contre. Déjà, bon, bah, ils supportent pas qu'une femme prenne la défense de cette terroriste. Hein, on va dire, voilà, c'était tout simplement épouvantable, y compris pour les juges, hein, bien sûr. Donc à Alger, elle n'a pas su se faire entendre. Donc après, elle a réussi à obtenir le dessaisissement de l'affaire par le dessaisissement de l'affaire au parquet d'Alger et elle a réussi à faire transférer Djalima à Caen. Donc après Djalima, elle est transférée dans différents centres de détention hein, à Caen. Elle sera aussi à Fresnes, à Pau. Et en fait, ce qui est très très bien dans cet ouvrage, en fait, qui a été publié quand même 2 ans après, hein, en janvier 62, aux éditions Gallimard, en fait, Gisèle Halimi rend compte, par le biais donc de tous ses témoignages, correspondances, de son argumentaire juridique, bien sûr, hein, en tant qu'avocate, elle a un argumentaire vraiment passionnant, et bien sûr de son discours engagé. Donc de tout le déroulé de l'affaire, hein, qui prendra d'ailleurs un tournant médiatique en France métropolitaine, hein, notamment grâce à l'appui justement indéfectible hein, de Simone de Beauvoir, qui a contribué d'ailleurs avec de grands intellectuels français à la création d'un comité de soutien pour Djalima en juin 1960. C'est d'ailleurs grâce à Simone de Beauvoir que Gisèle Halimi a pu écrire cet ouvrage. Hein. C'est elle qui l'a fortement encouragé à le faire. Elle en a d'ailleurs, Simone de Beauvoir en a d'ailleurs écrit la préface. Donc le combat est long hein, pour Gisèle Halimi, car les juges, comme je l'avais dit, hein, tant à Alger qu'en métropole, n'accordent que peu de crédit à la parole de cette militante du FLN, ni même à celle d'une jeune avocate. Hein, d'autant plus en fait qu'il était particulièrement difficile hein, d'obtenir de l'armée française des éléments à charge contre les militaires tortionnaires et violeurs. C'était vraiment pour eux, enfin, ils se protégeaient les uns entre eux de toute manière. Bon, voilà, c'est bien connu. Je n'apprends rien quand je dis ça. Donc, en fait, à travers l'affaire Djalima Boupacha, Gisèle Halimi dénonce donc la torture et tous les actes de barbarie dont font l'objet les militants indépendantistes algériens, hein, pas uniquement Jamila Boubacha, il y en a eu énormément d'autres. Et en fait, l'attitude scandaleuse des militaires et paramilitaires qui démontre bien en fait que c'est pas seulement une histoire de mater la résistance qui était considérée comme exaspérante, hein, par les pro-Algérie française, mais il s'agit aussi, notamment par le biais des actes de torture, de bien rappeler à la population indigène, hein, qu'elle est en position d'infériorité sur le plan humain. Les sévices, subis par Jamila, comme le démontre bien Gisèle Halimi à la barre, hein, sont la démonstration de toutes les violences que peuvent subir les femmes dans les temps de guerre, mais caractérisent également le racisme profond dont fait preuve l'armée qui est implantée en Algérie pendant les 8 années du conflit. Le racisme vis-à-vis d'une population considérée comme inférieure parce qu'elle est majoritairement musulmane. Jamila Boubacha est non seulement une jeune femme, mais également une musulmane pratiquante et vierge. Donc elle constituait vraiment la cible idéale. Elle a d'ailleurs été complètement déshumanisée, reléguée au rang d'une simple chose, voire d'un jouet, sur lesquels ces tortionnaires se sont défoulés sans scrupule, car ils savaient d'avance que leurs actes ne leur porteraient jamais préjudice en réalité.
Alors, qu'en est-il devenu de cette femme ?
Cette femme, elle est toujours en vie d'ailleurs, hein, elle a plus de 80 ans. Malheureusement, ça a été très très difficile d'obtenir gain de cause, mais bon. Elle n'a pas été condamnée à mort. Hein. Donc ça déjà, c'était une grande avancée parce que initialement, elle était quand même jugée pour terrorisme. Donc en France métropolitaine, quand même, les juges ont pu démontrer que effectivement, elle avait bien subi des sévices, notamment la GIGN. Ça, ils ont bien su le démontrer. Par contre, c'était très très difficile de démontrer le viol. Ça a été encore plusieurs années après, ça a été plus ou moins remis en question. Et donc après, à la fin de son procès, elle est restée en France un moment. Et à la libération, en 62, elle a été forcée de rentrer en Algérie. Les militants du FLN, en fait, l'ont forcée à rentrer dans son pays. Et puis, elle a continué, hein, comme elle a pu là-bas, à militer justement, hein, pour les droits des Algériens. Et donc elle a bien sûr elle a noué une amitié indéfectible avec Gisèle Halimi, hein, ça a duré pendant des années et des années.
Et le combat de Gisèle Halimi a notamment porté sur le viol, la question de la reconnaissance du viol comme étant un crime et non pas comme étant de simples coups et blessures qui relaient du tribunal correctionnel et donc moins grave.
Ouais. D'ailleurs, je tiens quand même à préciser, hein, en parlant de Gisèle Halimi, hein, donc, elle a joué bien sûr un rôle important dans son combat pour la cause des femmes, hein, dans son engagement en faveur de la dignité et des droits humains. Mais également des années 70 au début des années 2000, elle a beaucoup contribué donc à la légalisation de l'avortement, bien sûr, hein, aux côtés de Simone Veil et de Simone de Beauvoir. Elle a aussi contribué à l'entrée des femmes en politique, hein, sous François Mitterrand, elle était élue députée de l'Isère.
Oui.
Elle a aussi œuvré pour la reconnaissance du viol en tant que crime, justement. Voilà, hein, ça c'était très très important. Pour la dépénalisation aussi de l'homosexualité, elle était bien évidemment aussi pour l'abolition de la peine de mort. Et c'est aussi en partie grâce à elle que la parité à l'Assemblée nationale existe. Mmh. Elle a pu l'obtenir de Jacques Chirac en 2000.
D'accord.
Voilà. Voilà, donc c'est vraiment une femme, hein, effectivement, dont il faut bien rendre hommage aujourd'hui. Hein. Elle n'a cessé de faire valoir le féminisme et l'égalité des sexes. Hein, concernant ce livre, je tenais à préciser qu'il n'est malheureusement plus disponible dans beaucoup de librairies, parce que il a été publié en janvier 62, donc il y a malheureusement Gallimard, il ne le réédite pas forcément trop trop souvent. Mais il y a un film qui est sorti en 2011, réalisé par Caroline Huppert, Donc le film, il s'intitule « Pour Jamila » et il est actuellement disponible gratuitement sur la plateforme Arte Replay jusqu'au 14 juin prochain. Et j'ai vu ce film, il retrace vraiment très très bien tout ce qui est consigné dans son livre. Vraiment.
D'accord.
Donc pour ceux qui ne peuvent pas lire le livre, bah, ils peuvent se rabattre sur le film qui est très 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 bien fait.
D'accord, ouais. Sinon c'est Jamila Boupacha de Gisèle Halimi, préfacé par Simone de Beauvoir, chez Gallimard.
Chez Gallimard, voilà. Ouais, tout
très
à fait.
Bien. Bon, bah écoute, merci, et puis la prochaine fois, j'espère que nous pourrons être ensemble. Allez, oui. Merci, à bientôt.
Ciao.
Ciao, ciao. Marie-Claire, ça te rappelle quelque chose, cette affaire, Jamila Boupacha?
Mais j'ai lu récemment un petit ouvrage de Gisèle Halimi, où elle évoque son action en faveur de Jamila.
Alors, revenons à ton recueil de poèmes qui va être présenté à Publico le 24 mars.
C'est ça,
à
19h30,
bon. Et il y a déjà quelques exemplaires de ce livre, Entre Vernon et Mantes. Alors, on a déjà eu l'occasion de présenter ton travail, la diversité de ton travail. Est-ce qu'on pourrait écouter une poésie? Allez, tu choisis.
Alors, ça s'intitule « Voyage en Bourgogne » et ce sont des remerciements, vous allez voir lesquels. Merci, mon coude. Merci, mon genou, de ne vous être pas cassé. Merci, la vie, merci, la route, de ne vous être pas brisé. Merci le temps, merci l'argent pour tant de voyages. Merci le cœur, merci le sang pour vos obstinés battements. En ai-je mérité tant?
Merci. Alors c'est un premier poème, il y aura d'autres poèmes au cours de cette émission et puis nous réinviterons Marie-Claire le 22 mars pour juste avant sa présentation à la librairie Publico pour qu'elle puisse nous en présenter d'autres, nous en dire d'autres. Alors je voudrais parler d'un livre de Marie-Hélène Lafon, d'une grande sensibilité et très, très fort. Alors, vous savez, les territoires marquent les femmes et les hommes qui y habitent, qui y rêvent, qui élèvent leurs enfants. Et Marie-Hélène Lafon a grandi dans une ferme isolée du Cantal, au cœur de la vallée de la Santoire. Ce pays d'en haut, elle en parle avec Fabrice Lardreau, journaliste à la montagne et alpinisme, responsable d'une collection chez Artaud, et elle montre l'intimité de l'enfance, l'isolement de la ferme, les garçons qui restent à la terre et les filles qui partent à la ville. Mais là, surtout, si je parle de ce livre, Le Pays d'en haut, c'est parce que vous trouverez des échos, évidemment, dans celui qu'elle vient de publier chez Buchet-Chastel, Les Sources. J'aime beaucoup ces livres qui révèlent une terre et des rapports sociaux durs. Là, vous êtes toujours dans la vallée de la Santoire, dans le Cantal. Et je soulignerai d'ailleurs la qualité de la typographie et de la mise en page. C'est un livre doux sur la forme. C'est pas un texte blanc, vous savez, ces textes blancs là sur du papier blanc. Mais il est doux sur la forme, mais il est dur sur le fond. Un extrait de Colline, de Jean Giono, le sanglier. Un élément du sauvage de la nature transparaît au début du livre. Mais c'est la vie quotidienne dans une ferme de ce pays d'en haut. C'est la tendresse d'une mère, les pensées d'une femme sur son passé. Les regrets aussi. Les sentiments affleurent, mais les mots restent bloqués au fond de la gorge. Et le lecteur sent que l'ambiance est lourde, le climat pesant, la peur dans les relations familiales, la peur entre le mari et la femme, entre la femme et l'homme, entre les enfants, les parents. Serait-ce la pire peine ? Le père avait averti sa fille. Il lui avait dit « attention ». Et le mari à sa femme, couturée par 3 césariennes, qui lui dit « mais tu ressembles plus à rien, tu pues, ça pue ». Et sa femme, pour se calmer et tenir, décide qu'il faut faire des choses, travailler, baisser la tête et se taire. J'ai aussitôt pensé à un livre très émouvant de Maupassant, Une vie. Et là, elle va avoir 30 ans, cette femme. Sa vie est un saccage, je cite, elle le sait. Elle est coincée, vissée avec les 3 enfants. Il est le père des 3 enfants. Il les regarde à peine, mais il est leur père. Il est son mari et il a des droits. Ah, phrase terrible. Car évidemment, on ne peut pas écrire des choses comme ça. Eh oui, mais c'est ce que pensait cette femme. Phrase terrible. J'ai lu ce livre d'une traite. Bon, il n'est pas long, mais il est rare de trouver autant d'intensité. Alors évidemment, je ne vous raconterai pas toute l'histoire. Mais elle va réagir. Et lui, que pense-t-il ? Et les enfants ? La puinée, Claire, revient un jour. La cour est vide, la maison est fermée. De quelle source s'agit-il ? Lisez le livre, vous trouverez. Les sources, Marie-Hélène Lafont, édition Buchet-Chastel, 2023. Frédéric, un petit peu de Maurice Ravel, chant populaire. Alors Marie-Claire, après, on est dans le monde de la campagne, on est dans un monde qui est un monde dur, hein, d'après ce que je viens de raconter sur ce livre. C'est vrai que c'est un livre qui m'a vraiment estomaqué. Un autre poème ?
Donc, la campagne, hein, c'est ce que tu dis, une vie dure, en fait. Et aussi toute la poésie de la nature et de l'animalité dans laquelle on baigne. Donc un poème dédié à l'âne.
Ah, ah oui, j'aime beaucoup ce poème. Oui.
Âne jamais monté, tu broutes ta bourrache sans bas, sans étrier. Tu broutes ta bourrache et salut du collier. Âne, tu m'encourages à par là repasser. De ne pas prendre garde aux états saisonniers, au foin, à l'herbe rase, rarement l'herbe grasse. à la paille grillée, au chardon qu'on arrache pour te les arracher. Tu chantes et tu rabâches, et de toi à la tâche, de moi en liberté, mon âne brun sans tache, c'est moi l'handicapé.
Merci. Alors, je dois aussi vous dire que, pour les auditrices et les auditeurs, que Marie-Claire ne lit pas son texte, mais qu'elle le dit, elle le connaît évidemment par cœur, elle l'a assimilé évidemment. Alors nous allons passer un classique d'Antoine Paul et de l'ami Brassens, Les Passantes. Frédéric, Les Passantes, s'il te plaît.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais. À celles qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui preste s'évanouit, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. À la compagne de voyage dont les yeux charmant paysage font paraître court le chemin qu'on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré la main. À celles qui sont déjà prises et qui vivant des heures grises près d'un être trop différent vous ont inutile folie laissé voir la mélancolie d'un avenir désespérant. Chères images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus, aux baisers qu'on n'osa pas prendre, aux cœurs qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Alors, au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude, des fantômes du souvenir, on pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir.
Merci, très beau poème, interprété par évidemment Georges Brassens. Marie-Claire, encore un poème ?
Avec plaisir, avec plaisir.
Ah, voilà, vas-y.
Rhubarbe, tu me barbas. Tu t'étales et tu tales la terre de ton pied, oh, gargantuesque. Rhubarbe, tu me nargues. Tu proclames la parcimonie de mes alchimies. Jamais telle fanfare je ne produis depuis la terre noire. Depuis ces turgescences sous sève saisonnière, faisant ressusciter. Rhubarbe, prends garde. C'est dans le compotier et en palais barbare que vont s'aciduler tes jungles d'Orénoque, tes arcanes baroques au cœur du potager.
Merci. Donc là, on est vraiment dans le monde de la campagne.
De la, c'est, du jardin. Hein,
c'est le jardin, là, ça me fait plaisir. On arrive au deuxième temps de l'émission et nous avons une rencontre avec Isabelle Pivert, fondatrice et directrice des éditions du Sextant. Je crois que nous l'avons en ligne, Frédéric. Allô, Isabelle ?
Oui, bonjour, Francis.
Oui, bonjour. Ben, c'est très gentil d'avoir répondu à notre invitation. Je dois dire que... Alors, tout d'abord, vous êtes la fondatrice des éditions du Sextant, qui publie de nombreux ouvrages. Hein, je reprends les propos de votre site. Des essais, des livres d'histoire, d'économie, de philosophie et d'autres disciplines humaines qui donnent aux lecteurs, et ça j'aime beaucoup, les moyens de mieux comprendre le monde, de s'y situer avant de tracer son propre chemin. Alors, pourquoi et comment cet objectif ?
En fait, c'est parti, donc les éditions du Sextant se sont créées en 2003, donc on va fêter les 20 ans de l'existence juridique, hein, même si les premiers livres sont sortis en 2004, et ces premiers livres, c'était trois livres. C'était la biographie d'Élisée Reclus, hein, dont vous m'aviez parlé, un grand personnage, et c'était aussi un ouvrage issu de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale qui s'appelle donc « Marche autant que tu pourras » de Brigitte Frion, et c'était aussi « Plan social, entretien avec des licencieurs ». Et ces trois livres, en fait, étaient un peu les trois livres fondateurs, c'est-à-dire que... pour ma propre histoire, enfin, je veux dire, plan social, entretien avec des licencieurs, moi, je venais du monde de l'économie et je m'apercevais que les journaux, les médias tentaient à faire croire aux citoyens que les licenciements collectifs de masse, eh ben, c'était un peu un phénomène météorologique contre lequel on pouvait rien. Et moi, je voulais étudier le fait qu'en fait, il y avait des gens derrière qui s'attelaient à ce genre de tâches. Et donc, c'était un peu des essais pour déconstruire un peu ce qu'on pouvait nous donner à croire. Et c'était un peu pour ça. Donc, c'était des livres qui donnent aux lecteurs donc, les moyens de mieux comprendre le monde, d'avoir d'autres opinions, d'autres avis, d'autres livres que des livres qui servaient finalement beaucoup, pour la plupart, hein, je veux dire, pas tous, mais les institutions au pouvoir. Voilà, le pouvoir, en gros. Et donc ces livres-là permettaient ensuite de se faire une opinion. Alors, c'est beaucoup des livres d'histoire, par exemple Élisée Reclus. Moi, j'avais découvert peu avant ce grand personnage, ça m'avait fasciné. En fait, je m'étais dit, tiens, mais des gens comme ça existaient. Enfin, voilà, j'avais pas... je découvrais, donc, à travers Élisée Reclus, l'histoire de l'anarchisme. Et donc, il y avait ça aussi, de dire que ça avait existé à un moment donné, des combats pour des idées, des débats pour des idées, chose que je trouvais déjà en 2004, existait de moins en moins. Donc c'était un peu cette idée-là. Et puis, bon, évidemment, le petit livre « Marche autant que tu pourras » de Brigitte Frion, qui était une leçon de résistance, en fait, où dans l'humanité se côtoient le pire et le meilleur, en fait.
En fait, lorsque vous avez créé cette maison d'édition, vous n'aviez donc pas eu particulièrement une expérience. C'était le goût de l'aventure, en partie ?
En réalité, si. J'ai suivi une formation en édition, donc 2 ans avant la création de Sextant. J'ai travaillé ensuite 1 an dans une maison d'édition, les éditions du Félin, qui était spécialisée donc en sciences humaines et sociales, avec aussi un petit côté lecture critique aussi, essai critique, donc critique sociale, économique, politique, que j'ai repris. Enfin, moi, je viens plus de l'économie, mais j'ai fait aussi de l'histoire, enfin j'ai eu pas mal d'histoire, de philosophie, etc. Donc j'avais quand même une expérience, mais j'avais envie de créer ma propre maison d'édition pour une question de liberté aussi. Les éditions du Félin, c'était quand même un groupe qui possédait cette maison. Donc voilà, et puis essayer, oui, le goût de l'aventure aussi, parce que c'est un peu pour ça aussi que j'ai appelé les éditions du Sextant. Le Sextant, c'est un instrument de position, de connaissance, et en fait j'ai fait tout de suite l'analogie avec le livre, donc tel que moi j'avais envie d'en faire, c'était le livre, d'ailleurs ça peut être de la littérature ou de la poésie, c'est un instrument de connaissance sur le monde, c'est un instrument de positionnement aussi. On peut lire un livre, mais on n'est pas obligé d'adhérer à tout ce qu'il y a dedans, donc on peut choisir ensuite qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie et quelles idées on veut avoir, etc., etc. Mmh. Donc, il y avait ce goût de l'aventure, en fait, que j'avais déjà eu avant, puisqu'en 90, j'ai traversé à la voile l'océan Atlantique en équipage. Et donc, j'ai eu à utiliser un sextant parce que les instruments électroniques étaient en panne. Et donc, j'ai trouvé ça super comme instrument. C'est un instrument où on peut se positionner sur l'océan, rien qu'avec le soleil, savoir exactement où on est. Et ensuite, à partir de là, eh bien, on peut suivre son cap, choisir son cap et le suivre.
Alors, nous, on ne s'est pas rencontrés grâce au sextant. On s'est rencontrés au salon de l'autre livre, en novembre dernier. Et on reviendra d'ailleurs sur cet autre livre. Mais on s'est croisés et je connaissais certaines de vos publications, comme par exemple « La conquête du pain » de Pierre Kropotkine, « Les mémoires d'un chemise rouge » de Garibaldi. Mais je me suis rendu compte que vous aviez plusieurs collections. Quelles sont-elles et comment peut-on les caractériser ?
Donc on a à peu près 6 ou 7 collections. Donc on a la collection donc Les Increvables, hein, les petits textes anarchistes, on reprend les meilleures conférences ou textes de cette tendance-là. En fait, c'est une tendance de l'anarchisme, c'est-à-dire c'est l'anarchisme communiste ou le communisme libertaire. C'est-à-dire que d'autres éditeurs vont publier beaucoup plus d'anarchisme individualiste ou du syndicalisme révolutionnaire. Nous, on s'est intéressé seulement à ce courant, hein, parce que c'est un courant qui s'intéresse à l'économie, c'est-à-dire, on pense à la conquête du pain, hein, on pense aussi, suite de toutes ces idées du communisme libertaire, c'est aussi les SCOP, les mutuelles, etc. Donc c'est une tendance qui existe aujourd'hui, qui existe plutôt de manière, je dirais pas inflationniste, mais ça se diffuse encore plus, encore oui. Donc 100 ou 150 ans après. Donc je trouve ça fantastique, hein. Donc voilà, mais on a évidemment d'autres collections, donc plutôt des grands ouvrages de l'anarchisme, toujours de ce courant-là. C'est pour ça que je pense à Kropotkine, les mémoires de Kropotkine, les mémoires de Jean Grave,
oui.
Élisée Reclus, Voltairine de Clare aussi, donc qui est une américaine, mais qui est aussi du courant du communisme libertaire. Hein. C'est-à-dire qu'à la base, c'était une socialiste, et ensuite elle est devenue anarchiste après le massacre de Haymarket en 1864, si me semble-t-il. à Chicago. Donc on a aussi d'autres, donc ça c'est très historique, hein, et on a aussi d'autres livres qui a priori n'ont aucun rapport avec l'anarchisme, enfin, c'est-à-dire pour moi quelque part l'idée de liberté, et aussi en même temps couplé avec l'idée bien sûr pour moi en tous les cas de responsabilité. Et du coup, on a fait des livres sur l'histoire de l'URSS. On a fait des livres, donc toujours pour mieux comprendre. Là aussi, c'était un sujet qui n'était pas du tout exploré du côté en France ou même, on va dire, du côté du monde occidental. Quelle était la vie des gens ordinaires en URSS ? Et c'est comme ça qu'on en a publié quelques-uns qui sont pratiquement épuisés maintenant. Et c'est pas, peut-être pas hasard, mais par hasard, ce sont des femmes souvent qui étaient. J'ai beaucoup d'auteurs qui sont femmes. Mmh. J'en profite pour les saluer parce que c'est le 8 mars, c'est donc la Journée internationale des droits des femmes. Oui. Et je trouvais ça aussi. C'était certainement un autre regard que le regard d'un écrivain homme, en tous les cas.
Tout à fait. Donc là, vous avez plusieurs collections, mais vous avez publié un certain nombre d'ouvrages classiques, j'allais dire, sur l'anarchisme. Est-ce que vous pensez que ces livres répondent à votre souci de mieux comprendre le monde ? Est-ce que la conquête du pain peut servir, par exemple, dans cette démarche ?
Oui, parce que d'abord, ce sont des livres qui ont été publiés pour la conquête du pain il y a plus de 100 ans et qui sont très pragmatiques. Ce qui est bien dans l'anarchie, c'est qu'on part des besoins des gens, alors, besoins à la fois collectifs et besoins privés, hein, donc il y a les deux besoins. Et en même temps, on voit qu'est-ce que c'était, quel était le au niveau social, quelles étaient les questions sociales de son époque, etc. Et on peut mesurer en lisant, par exemple, la conquête du pain, que certains aspects sont complètement contemporains encore aujourd'hui, et d'autres sont obsolètes, mais sont en train d'être attaquées. Par exemple, je pense aux droits sociaux, le droit, la sécurité sociale, la retraite, etc. Bon, la retraite, on en parle, on est en plein dedans. Mais à une époque où tous ces droits-là n'existaient pas, en lisant ce livre, on peut comprendre comment aujourd'hui, mais maintenant depuis une trentaine, quarantaine d'années peut-être, les conquêtes sociales de la fin du 19e, début du 20e sont attaquées depuis 30, 40 ans. Effectivement, ça permet de mieux comprendre le monde, de se dire puis de quelque part, c'est aussi un hommage à tous ceux qui se sont battus pour ces droits. On a tendance à l'oublier, hein, je veux dire, à la fin des années la fin du 19e siècle et ensuite toutes les conquêtes du 20e siècle, notamment le droit d'association, le droit des femmes, etc. C'est bon de rappeler, je pense, c'est pour ça qu'on prend ces textes-là et on met des préfaces qui remettent le texte dans son contexte.
Alors, des préfaces, des postfaces aussi. Oui. Par exemple, vous avez Élisée Reclus, vous avez publié un certain nombre d'ouvrages, une biographie, son classique sur l'anarchie. Et dans une postface de l'édition 2019, vous avez donné pour titre à cette postface « Fragments des carnets du président ». Alors, on donne une piste un peu sur ces fragments des carnets du président ?
Oui, tout à fait. Alors, pour rappeler, c'est que c'est notre quatrième édition, si mes souvenirs sont bons, de ce texte, de l'anarchie. On a été un des premiers, voire le premier à ressortir ce texte donc en 2006, avec une préface de sa biographe, hein, Hélène Sarrazin, qui est décédée aujourd'hui. Et très vite, ça a été épuisé. D'autres éditeurs ont publié aussi ce texte, toujours alors de manière différente. Nous, on mettait toujours des notes, une postface ou une préface. Et donc, là, c'est la troisième. Alors, cette édition-là, elle est un peu plus épaisse parce que fragment des carnets du président. Je vais pas tout dévoiler, évidemment, aujourd'hui, mais il faut savoir que ça part de l'histoire et que quand je mets fragment des carnets du président, C'est suite à une découverte, parce que je suis aussi essayiste, donc je suis éditrice et essayiste, à une découverte historique, on va dire, qui respecte complètement les délais de communicabilité des archives de la présidence de la République, hein, puisque c'est 50 ans après la mort, enfin après le départ d'un président, qu'on peut avoir accès à des documents qui n'ont pas été encore publiés ou qui sont dans les archives. Et donc ici, il s'agit de Charles de Gaulle.
D'accord.
Donc ces carnets ont été découverts et j'ai écrit un texte à partir de ça pour donner un exemple de ce que pouvait être le pouvoir, c'est-à-dire la pratique quotidienne du pouvoir. Et par rapport donc au classique sur l'anarchie d'Élisée Reclus, donc qui lui montre plutôt une méfiance consubstantielle vis-à-vis du pouvoir.
D'accord. Donc là, un livre tout à fait riche. Quatrième édition, c'est ça?
L'anarchie, oui, c'est la quatrième édition.
Ouais, d'accord, donc, très bien. Et puis, il y a d'autres textes, et notamment de Jean Grave. Jean Grave est un peu oublié, c'est vrai, notamment un texte intéressant dans une collection que vous appelez les Increvables. Ce sont de petits textes incisifs, et notamment un texte sur la colonisation avec un témoignage sur un massacre.
Oui, alors, donc, Jean Grave... donc on a publié ses mémoires qui sont passionnantes aussi. Hein. Oui. C'est toute l'histoire de la diffusion. D'ailleurs, c'était un des titres... c'était une réédition d'un texte publié par Flammarion en 73, me semble-t-il, qui s'appelait « 40 ans de propagande anarchiste ». Donc ça, c'est Jean Grave. Hein. Le deuxième, donc sur la colonisation, on essaie toujours aussi de sortir des textes un peu au moment où il y a une actualité, par exemple. Hein. Ce qui est intéressant avec ce témoignage sur le massacre d'Ambiki, que j'ai découvert, hein, donc en même temps que l'existence de la sueur du Burnou, donc de Paul Vigné-Docton, c'est que là, on a l'exemple d'un député, donc de quelqu'un qui est un homme de pouvoir, et qui va refuser le silence sur ce massacre, et qui va vouloir dire la vérité là-dessus. Il va le dire donc à l'Assemblée, il va publier. Il veut pas que ça soit dans l'oubli. Et donc ça, c'est aussi un peu l'idée de la maison d'édition. Tous nos auteurs, quelque part, sont... un peu à côté de on va dire de l'autoroute de la pensée, c'est-à-dire qu'ils vont soit être des témoins, soit être des chercheurs qui vont publier. Par exemple, je pense qu'il y a un auteur qui publie Tourisme, armes de destruction massive. Alors bon, c'est sûr que c'est le tourisme à l'ère planétaire, hein, oui. Et puis c'était avant le Covid, mais qui va aussi faire traiter d'architecture sauvage, etc. Donc on aime bien les gens qui ont d'autres idées, qui vont un peu et puis qui vont être des témoins sur des massacres horribles. Donc ça c'est important de ne pas se taire, je pense. Et c'est pour ça que quelque part les éditions du Secton publient des livres. Ça me fait rebondir sur la collection Décodeur. Décodeur, c'était cette idée-là avec le décodeur de Canal+ qui permettait, de voir les images de manière claire. Alors que si on n'a pas de décodeur, on est dans une sorte de brouillard, d'enfumage, et qui fait que on navigue à vue dans le brouillard.
Alors, on a aussi un personnage que vous avez mentionné, Voltairine de Cleyre. Alors, on savait par les mémoires, notamment d'Emma Goldman, les difficultés pour défendre les idées anarchistes aux États-Unis. Mais elle publie, alors vous, c'est vous qui republiez Anarchie et tradition américaine. Mais on trouve aussi, en ce jour des droits de la femme, c'est pas inintéressant, de l'action directe. Le mariage est une mauvaise action.
Oui. Le mariage est une mauvaise action qui est d'ailleurs quasiment épuisée. C'est un peu aussi là. C'est une réponse à une conférencière qui, à l'époque, donc en 1912, avait fait une conférence sur le mariage est une bonne action. Donc elle a pris le contraire et elle montre que, en fait, plus que le mariage, c'est l'union. permanente entre deux personnes qui est... en fait, elle montre, c'est pour ça que le texte est intéressant, c'est une parole qu'on n'entend pas beaucoup, elle montre que il y a une des personnalités qui va être effacée, enfin, qui va s'effacer au profit de l'autre. Donc c'est le mari, enfin la vie permanente, la cohabitation permanente, elle est contre. C'est pour ça qu'elle écrit ça. Mmh. Le mariage est une mauvaise action. De l'action directe, ben c'est un peu le fait de dire, elle dit, à partir du moment où vous commencez à dire non, eh bien vous êtes dans l'action directe. C'est le premier geste. Mmh. C'est des très beaux petits textes. C'était quelqu'un qui s'exprimait de manière très claire, qui prenait des exemples. C'est pour ça qu'on met des notes pour dire quelle personne, qui est cette personne, etc. Donc c'est des textes qui ont besoin de notes pour bien comprendre le contexte dans lequel elle écrit ou elle fait ses conférences. Mais c'est des textes qui nous parlent directement, d'abord parce que c'est écrit de manière très simple. C'est pas une écriture qui a vieilli. Je parle de tous les textes de l'anarchisme. C'est une écriture qu'on peut lire aujourd'hui de manière très simple. D'ailleurs, on peut dire que, par exemple, l'entraide, un facteur de l'évolution, petit texte de Kropotkin, donc c'est un extrait d'un beaucoup plus gros livre, il se vend régulièrement beaucoup, comme la conquête du pain, depuis maintenant plus de 10 ans. Quoi, hein.
Et c'est vrai que, et dans le style, et dans le fond des thèmes abordés, que ce soit les textes de Jean Grave ou de Voltairine de Clair, je trouve que c'est d'une très grande modernité. On a d'autres textes, on ne dira pas de qui sont lourds, pesants, se dit « mon Dieu, qu'est-ce que ça a vieilli ?» Alors que là, c'est très moderne, on discute de choses, et le mariage est une mauvaise action. On peut faire le lien avec des textes d'Emma Goldman, j'en parlais à l'instant, on peut faire le lien aussi avec Louise Michel. Il y a vraiment des lieux de débat, et le mariage est une question vraiment intéressante. Ça, c'est très bien. Alors, bon... Vous avez, pour soutenir votre action, parce que le temps passe, vous avez créé une association, les Amis du Sextant. Que peut-on faire?
Oui, donc en fait, c'est une association qui existe, mais qui se développe surtout de manière informelle. C'est-à-dire que c'est par des rencontres dans les salons, dans les librairies. Donc c'est vraiment, moi je dirais, pour nous aider sextant, parce qu'on peut dire qu'on traverse parfois des périodes difficiles. Aujourd'hui, la crise du papier, la crise de l'énergie, c'est le mieux, c'est d'acheter nos livres. Alors, vous pouvez les acheter en fait très facilement dans les librairies, toutes les librairies.
Même chez Publico.
Oui, et même chez Publico.
Je les ai encore vus tout à l'heure.
Et tout à fait. D'ailleurs, on remercie beaucoup Publico de nous soutenir. Et puis aussi en ligne et aussi dans les salons du livre. Moi, je crois beaucoup au salon du livre parce que c'est l'écosystème qui se retrouve, toute la chaîne du livre. On peut trouver des auteurs, des éditeurs, des collègues, des... Enfin, c'est vraiment... et puis, c'est vraiment la présence aussi. Il y a des conférences, des débats. Donc, aller dans les salons du livre. Alors, je constate aujourd'hui que plein de petits salons naissent dans des villes moyennes. Salons d'auteurs, salons d'éditeurs. Je constate aussi, d'après les statistiques récentes du CNL, qu'il y a une centaine de librairies qui se sont créées en 2022.
C'est courageux.
Souvent des librairies de proximité. Mmh. Donc ça, voilà comment on peut soutenir le livre, nos livres. Si on fait surtout nous des sciences humaines et sociales, c'est aussi parce que la littérature est très bien servie par d'autres maisons d'édition indépendantes et la poésie aussi. Toutes ces matières, ces domaines, que ce soit la littérature, la poésie, le théâtre, les sciences humaines et sociales, l'histoire, servent cette édition en fait indépendante. J'en profite pour dire que c'est très important la liberté d'éditer, l'indépendance de l'édition, parce que ça a à voir forcément avec la liberté d'expression. Or, je constate depuis plusieurs années que que cette liberté d'expression, elle est malmenée. Je pense au milieu de l'édition. Il y a beaucoup de livres qui ne vont pas paraître, qui ne paraissent pas parce que on peut se sentir menacé. Moi, par exemple, je peux recevoir des textes sur l'islam. Je vais pas le faire. Je suis pas spécialiste, mais on sent qu'il y a une pression qui peut être de la rue, qui peut être bon. On va pas parler des versets sataniques, mais que les gens ont tendance. On peut s'auto-censurer aussi hein, comme éditeur.
Hein, donc, alors, vous avez des projets de publication?
Nous, nos projets pour l'instant. Ils sont dans les cartons, on attend, on est un peu attentif, c'est-à-dire que avant de créer une nouveauté, bon moi je c'est vrai que j'écris aussi à côté, donc pour l'instant on réédite, on réimprime nos les livres qui sont les plus en fait qui les marchent le mieux hein, sincèrement et on va réimprimer aussi certainement des livres comme peut-être sur la Russie, parce qu'il y a un intérêt. Nous, sur 4 livres publiés sur la Russie, il y en a qu'un qui est pratiquement qui est encore là. C'est celui que. D'ailleurs, j'en profite parce que l'auteur, qui est une dame assez âgée, va faire un salon, un petit salon rue Charles Fourier. À Paris dans le 13e, et donc pour son livre « Femmes et familles en Russie d'hier et d'aujourd'hui ».
Alors quel jour 13...
c'est samedi prochain.
Samedi prochain, de quelle heure à quelle heure?
Donc c'est de 10h à 19h, et donc c'est 20 rue Charles Fourier, c'est une association qui s'appelle l'ARPE, A-R-P-E, dans le 13e. Voilà, et donc cet auteur-là, donc, qui a 85 ans, va se déplacer pour venir signer son livre « Femmes et familles en Russie », préfacé donc par Michel Perrault.
D'accord. Michel Perrault, l'historienne.
Tout à fait.
Dont nous allons parler dans un instant pour son livre « Le temps des féminismes ».
Ah d'accord, très bien.
Oui, oui.
Alors, position.
Est-ce qu'on peut rappeler l'adresse de votre site et les coordonnées de votre maison d'édition?
Oui, alors l'adresse du site, donc c'est les éditions du Sextant, hein, donc c'est www.éditionsdusextant, tout attaché avec un S à édition.com. Voilà. Et nous, pour l'instant, nous sommes dans le 18e, on est en train de prévoir un autre siège, mais pour l'instant, on est dans le 18e.
D'accord. Donc, nous mettrons sur le blog du groupe Commune de Paris de la Fédération anarchiste, nous mettrons l'adresse du site. Eh bien, merci Isabelle, et puis vous nous faites signe dès que vous avez des projets dont on pourrait parler, et puis on vous réinvite à ce moment-là.
D'accord, très bien, merci.
Merci, allez, au revoir. Frédéric, un petit peu d'intermède musical. bien, les éditeurs, voilà, on est vraiment dans le monde de l'édition, c'est parfait. Les éditrices, eh bien, nous, certains, les auditrices et les auditeurs, là, ont peut-être reconnu un générique qui m'a amusé. C'était le générique de Signé Furax. C'était un feuilleton radiophonique qui était écrit par Pierre Dac, qui a été un temps anarchiste, et Francis Blanche, qui n'était pas très loin quand même. Alors, Isabelle Pivert nous a parlé de Michel Perrault, et dit que Michel Perrault avait préfacé un ouvrage qu'elle éditait. Eh bien, moi, je voudrais mentionner le livre de Michel Perrault, « Le temps des féminismes », aux éditions Grasset. Alors, Michel Perrault, en effet, à l'invite d'Eduardo Castillo, un de ses anciens étudiants, nous propose un petit livre dense, aux informations précises, qui savent mettre en perspective, je cite, « l'histoire des femmes et surtout du féminisme ». Celui-ci, selon elle, pendant 30 ans, a paru comme en sommeil. Les combats semblaient tous gagnés. Bien sûr, il n'en était rien. Et il y a un peu plus d'une dizaine d'années, des jeunes femmes dynamiques, enthousiastes, déterminées, ont pris le relais, comprenant qu'un long chemin restait encore à faire. Alors ce livre, « Le temps des féminismes », paru chez Grasset en 2023, évoque deux histoires. L'histoire avec un grand H et l'histoire personnelle de Michel Perrault. C'est un vrai plaisir. Les deux s'imbriquent pour le plus grand plaisir du lecteur. Vous verrez, c'est un essai d'égo-histoire. Égo, le moi. Lisant certains passages, je songeais d'ailleurs au livre de Mona Ouzouf, notamment « Portrait d'une historienne » ou « Pour rendre la vie plus légère, les livres, les femmes et les manières ». Toutes deux de grandes historiennes qui vivent l'histoire. C'est leur passion et ça se sent à la lecture. Chaque page porte la passion de l'histoire. Michel Perrault, dans les années 70, prend conscience de sa solidarité avec les autres femmes. Je cite « Alors je me suis senti vraiment féministe et j'ai fait partie de cette lame de fond qui bouleversait la société française. » Au fil des ans, j'ai été témoin et actrice. Peut-on être historienne et féministe ? Elle répond : j'ai toujours distingué mon engagement féministe et mon travail d'historienne. L'histoire est un instrument de compréhension, de recherche d'une vérité. C'est un exercice ambitieux et exigeant. Elle donne des instruments pour critiquer et aussi pour penser contre soi-même. Une position peut être démentie par l'étude des faits. Il faut se défier de soi et admettre que l'on s'est trompé. Sans oublier d'où nous parlons, vous connaissez la formule. Et ces pages consacrées à la démarche historique sont passionnantes. Elles montrent la modestie de cette grande historienne face aux sources, aux témoins, aux plus humbles, aux thèmes. Pour elle, il faut chercher, trouver les traces, car les femmes apparaissent un peu et très peu, en fait, dans les documents. Pourtant, elles constituent, suivant la formule consacrée, la moitié de l'humanité. Alors, évidemment, l'histoire des femmes commence dans les grottes, et certains considèrent que les mains de l'art pariétal seraient des mains de femmes. Il faut mobiliser ainsi d'autres disciplines que la science historique, pour progresser dans cette connaissance. Malgré leur rôle, leur capacité, la création reste masculine. Le parcours, en compagnie de Michel Perrault, souligne les combats menés, les difficultés rencontrées. Une belle synthèse sur plusieurs siècles, même pour qui croit connaître cette histoire. Oh, les noms nous sont familiers, vous les retrouverez en lisant l'ouvrage. Mais Michel Perrault insiste sur Olympe de Gouges et la célèbre Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Les femmes commenceront à s'émanciper par l'écriture, le journalisme, le célèbre journal La Fronde, un journal de femmes par les femmes. On y retrouvera des gens comme Séverine, notamment. l'enseignement aussi, la médecine. Comment faire coexister le travail et la maternité ? Les femmes les plus défavorisées connaissent la précarité et les logements sociaux. Le rôle de la religion fut redoutable dans la situation de soumission imposée aux femmes, d'où leur engagement fréquent en faveur de la laïcité, facteur de liberté et d'égalité. Alors, le féminisme est une pensée, selon elle, mais ce sont aussi des combats. Et Michel Perrot rappelle les tensions en ce qui concerne l'avortement, la contraception, les débats lourds et la violence, notamment, du débat à l'Assemblée nationale, quand on parlait de Simone Veil tout à l'heure, qui a été obligée d'affronter un public d'hommes. Et quand on reprend les photos de l'époque, c'est assez fascinant de voir que ce sont des hommes, dans la plupart des cas âgés, qui débattaient sur la question de l'avortement et de la contraception. Et soulignons aussi la fragilité des conquêtes. Plus tard, apparaît la conscience du genre, la question de l'identité, le devenir, l'altérité. Cela permet d'aborder des questions complexes comme le port du voile, le woke, la cancel culture, l'intersectionnalisme. Vous verrez les positions de Michel Perrot. Et le mouvement MeToo a engagé une nouvelle étape. Les pages consacrées à ce mouvement constituent un plaidoyer en faveur de la parole. Il faut parler, il faut dire et dénoncer l'inacceptable. Et comme d'autres féministes, Michel Perrot refuse d'opposer les femmes et les hommes. Je la cite. L'amour suppose le consentement. Réaffirmons la puissance de l'amour, mais réinventons-la dans l'égalité et la liberté. On peut retrouver de tels propos chez Louise Michel et Séverine. Je la cite encore, Michel Perrot, « Universel dans sa foisonnante diversité, le féminisme est une manière de révolution dans les rapports entre les sexes. Un chemin sinueux, ombreux, obstiné, vers l'égalité, la liberté et l'amour. » Je terminerai par ces mots à elle, concluant son avant-propos. Tout cela constitue, tout ce que nous avons lu, tout ce que vous lirez, constitue une tumultueuse et passionnante histoire inachevée, sans cesse recommencée et à l'issue incertaine. Des mots qui s'appliquent au féminisme ou à l'historienne? Eh bien, un peu aux deux, je crois. En tout cas, un livre très intéressant, Michel Perrot, Le temps des féminismes, aux éditions Grasset, en 2023. Frédéric, un petit peu d'intermède encore, s'il te plaît. Eh bien voilà, nous allons reprendre notre parcours entre Vernon et Mantes, toujours avec Marie-Claire Calmus. Et Marie-Claire va nous reprendre un autre poème.
La robe de l'artiste. La robe de l'artiste pendue n'a rien de triste, mais l'artiste pendu serait plus pathétique. La robe de l'artiste et son corps sont au clou, à l'encan, à la foire, à la brade. On dit qu'un autre artiste n'en offre pas 10 sous. La robe de l'artiste effeuille son absence. Quelque part se relance l'envie d'aller au bout d'un poème, d'une souffrance, pour trouver la délivrance. Quand elle étend ses manches, l'artiste dans sa robe. Quand elle étend ses branches, l'artiste sans sa robe couvre le monde autour.
Merci. Oui, c'est vrai, je l'ai aussi découvert dans le recueil. Il est effectivement très beau ce poème. Allez, un petit dernier. Un petit dernier. Pour cette émission, bien sûr.
La machine à laver. La machine à laver. Je m'échine à laver le bruit de vieilles fêtes, des fêtes aussitôt faites. La machine à aimer, je m'échine à aimer. Mais la haine est bien forte et bien close la porte. La machine à bâtir, je m'échine à bâtir. Je m'acharne à guérir les chardes d'un souvenir. La machine à chanter. Je m'échine à chanter, tout drapeau déployé. Elle me fait mal à pleurer. Je m'échine et machine à ne pas perdre pied. Ton échine, ami fier, m'achemine au sommet.
Merci. Alors, dernier temps de l'émission, nous allons parler de Colette, l'écrivain, l'écrivaine. L'année Colette débute évidemment par une floraison de rééditions, de biographies. Les éditions de Lerne ont publié un cahier dont nous allons parler, dont Dominique va nous parler dans un instant. Mais moi, je voudrais insister sur une autre publication de ces mêmes éditions, un petit bijou intitulé « Paris, je t'aime ». Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien Paris. Et donc l'approche diverse, parfois chahutée des écrivains, démontre l'étonnante complexité de cette ville. Colette y apporte une touche délicate. Elle arrive toute jeune de sa province, avec son accent, ses postures, ses étonnements. Mais elle saura rapidement trouver, dans cette ville, une province, comme elle l'appelle. C'est-à-dire un petit quartier. Ah, elle a le mal du pays, comme son héroïne Claudine, c'est sûr que Saint-Sauveur en puisait, ce n'est pas Paris, même s'il s'agit du Paris d'avant-guerre, la Seconde Guerre. Les concepteurs de ce livre ont souhaité regrouper les articles de Colette, publiés pratiquement jusqu'à sa mort en 1954. Elle suit dans un premier temps ses maris, Willy et Henri de Jouvenel. Et dès 1920, elle est indépendante et découvre, nous fait découvrir le Palais Royal, ce jardin caché, son jardin caché en plein Paris, enchâssé, enchâssé pour celui qui va dans ce jardin. C'est le seul parc qui est aussi enchâssé. Et nous le balayons du regard depuis le 9 de la rue du Beaujolais, son appartement. Pour elle, c'est un village, dans le village. Mon premier matin, dit-elle, de Palais Royal, fut, paupières encore fermées, l'illusion d'un beau matin de campagne. Car, sous ma fenêtre, cheminaient ensemble un râteau du jardinier, le vent courant d'ouest en est dans les feuillages, et cette liquide, goûtez la formule, cette liquide gorgée qui monte et descend dans le cou sonore des pigeons. Elle changera parfois de logement. Elle ne pense pas qu'aucune capitale soit pareillement composée, non seulement de quartiers, mais d'îlots, formés parfois de deux ou trois rues, un reste de jardin, une cour, îlots qui ont chacun leur conformisme particulier, leur quant à soi, leur solidarité de groupe et leur chat, vous savez qu'elle était passionnée par les chats, leur chat indivis. Fin de citation. Alors, les poètes de Paris viennent à l'esprit, et j'en parle souvent dans cette émission. On retrouve Paul Fort et ses ballades françaises avec des reliquats d'Île-de-France. On se promène dans Paris, dans ce jardin du Palais Royal, c'est ce dont elle parle le mieux. Et puis, il y a les gens, des enfants, des vieilles prostituées, héritières de celles de l'Ancien Régime qui avaient fait de ce lieu un espace de libertin, dans les différents sens du terme libertin. Le passage du livre sur l'éveil du jardin, le soleil qui éclabousse les rosiers, les pelouses, les bassins, ben écoutez, vous imaginerez Colette à sa fenêtre, guettant des chats, et Coteau, un autre ami des chats. Suivez son conseil pour rentrer dans le jardin, passez par le passage du perron, un petit passage discret, privé, en quelque sorte. Vous promènerez un livre à la main, peut-être celui que je vous présente et vous invite à lire. Vous rentrerez dans l'intimité de Colette, sa gourmandise, sa passion pour les chats, sa vie pendant l'occupation, et puis sa conception de l'amour qui passe. Un livre charmant. Alors je rappelle le titre, enfin l'auteur Colette, le titre, Paris, je t'aime, édition de Lerne, 2023. Et, j'allais dire, sans transition, Frédéric, j'imagine que nous avons Dominique. Allô Dominique ?
Oui, oui, je suis bien là.
Alors, merci d'être là. Alors, en t'attendant, on a parlé du livre, tu sais, le petit livre bleu, la Colette, de Colette, Paris, virgule, je t'aime.
Oui, oui, je t'ai entendu. Et d'ailleurs, tu as divulgué déjà pas mal de choses, j'allais dire.
Eh bien, ça veut dire que c'est vraiment un livre qui reflète bien le personnage. Mais alors... si nous parlions d'une femme symbole de la liberté de comportement, c'est bien Colette. Alors,
ah oui.
Tu as souhaité nous parler de ce très beau cahier de Lerne consacré à cette femme. Alors, qu'en est-il ? D'abord, les cahiers de Lerne, on rappelle un peu ce que c'est,
oui,
comment c'est composé ?
Je voulais dire quelques mots. Donc, les cahiers de Lerne republient un numéro spécial qui avait déjà été publié il y a quelques années. Donc, pour les 150 ans de sa naissance, le 28 janvier 1873, il republie hein, tel quel. Alors, les cahiers de Lerne sont issus des éditions de Lerne, qui est une maison française fondée en 1961 par Dominique de Roux, en hommage à l'hydre de Lerne, dont les têtes repoussent lorsqu'on les tranche pendant les travaux d'Hercule. Mmh. Alors, la collection est consacrée à de grands noms de la littérature et de la poésie, souvent quand même en marge hein, ou un peu controversée, parce qu'on verra que la vie de Colette a quand même été quelque chose. Hein. Et aujourd'hui, elle est dirigée par la fille de Dominique de Roux, Laurence Tacou, journaliste qui se dit anarchiste et pense qu'un livre doit brûler pour changer notre vision du monde. Donc voilà pour la présentation de cette maison d'édition. Hein. Alors revenons à Colette, hein, auteur de 24 romans, 24 récits ou essais et une correspondance très importante. Alors, ces cahiers sont composés d'articles de spécialistes, hein, de Colette, et ils nous montrent que Colette n'est pas du tout comme disait Cocteau, la dame tartine ou la bonne dame du Palais Royal. Il y en a même qui l'ont qualifiée de réservoir à dictée. Je sais pas si
ah oui, j'ai beaucoup aimé la formule.
Oui, c'est Mona Ozouf. Hein,
ouais, on avait Marcel Pagnol aussi dans le genre.
Oui, oui. Bon. Alors, le « je veux faire ce que je veux », c'est l'hymne de Colette. Hein. Cette liberté est autant celle de la femme que de l'écrivaine. Elle a cherché toute sa vie à se débarrasser des contraintes morales. Alors, j'ai regroupé les cahiers en cinq parties. L'importance de la famille, ses apprentissages, parce qu'elle apprenait jusqu'à la fin de sa vie, son amour de la nature et des animaux, ses idées sociales et son style d'écriture. Alors, la famille, tout d'abord. C'est bien, au départ, c'est l'hommage à sa mère, hein, son double littéraire dans Sido. Cette mère qui lui a ouvert sans restriction sa bibliothèque. Elle lisait très très jeune des livres que nous, on ne lisait pas forcément. Et qui lui a donné l'amour de la nature et des animaux. Elle dit « Je suis la fille d'une femme qui, dans un petit pays honteux, avare et resserré, ouvrit sa maison villageoise aux chats errants, aux cheminots et aux servantes enceintes. » Alors, elle adorait sa maison de naissance à Saint-Sauveur, que j'ai visitée d'ailleurs et que je vous recommande, parce que c'est en voyant la maison d'un écrivain aussi qu'on se rend compte de toutes ses influences.
C'est resté à peu près authentique ?
Ah oui, tout à fait, oui, oui. Oui. Mmh. Et beaucoup de ses livres sont un retour à l'enfance et à la jeunesse, donc on retrouve beaucoup de choses. Alors, sa famille, ce sont aussi, elle a eu trois maris, qui lui ont pas procuré de plénitude. Le premier, Willy, l'a fait souffrir en tant que femme et écrivaine. Bon, le mariage avec le second, Bertrand de Jouvenel, s'est terminé plus doucement. Elle se mariera aussi une troisième fois. Et elle va aussi entretenir une correspondance de 39 ans avec sa fille, qu'elle va surnommer Belgazou. Donc la famille, même si elle est non conformiste, la famille restera quand même un phare pour elle. Alors, ses apprentissages, toute sa vie est un apprentissage continu à l'écriture, au journalisme, à la culture physique, au musical, au cinéma, à la sensualité, au plaisir. Alors, l'écriture tout d'abord, l'histoire est connue, hein, c'est Willy qui la faisait travailler et signer au début à sa place. Mais dans les cahiers de Lerne, on y apprend quand même que Willy jouait un grand rôle. Hein. C'est lui qui donnait les idées, notamment les fameux, la série Les Claudines. Il corrigeait, réécrivait les textes. Il dirigeait en quelque sorte un atelier d'écriture. Alors, certes, il a gardé les textes pendant 4 ans, puis il l'a donné à ses ateliers. Il les a sortis quand même un peu tard. Alors, ce qui est amusant, c'est que Willy voulait critiquer l'école laïque et obligatoire. Or, cette série est devenue plutôt un bel hommage à l'école. Bon, ensuite, Colette a pris son autonomie. Elle a dit à un moment, écrire ne conduit qu'à écrire. Elle a pratiqué le journalisme avec un grand plaisir. Elle s'est mise dans la lignée de La Fronde, premier journal quotidien féminin créé en 1897 avec Séverine, dont vous parlez souvent, Jeanne Brémontier, Marie-Louise Néron. Elles mettent le corps au centre de leurs écritures journalistiques et ne parlent de ce qu'elles connaissent et de ce qu'elles voient. Colette écrira au Matin, au Figaro, à Marie-Claire. Elle abordera beaucoup de sujets, la mode, même des sujets futiles, hein, la mode, les intérieurs, la cuisine, mais aussi des comptes rendus de procès, Landru, Violette Nozière. Elle écrira beaucoup de critiques de pièces de théâtre et d'acteurs, hein, notamment sur Arletty, sur Barreau, Pierre Brasseur, Pierre Freinet. Bon, elle a écrit quelques textes dans le journal collaborationniste de Gringoire. Mais bon, c'était pas des textes idéologiques. Et d'ailleurs, elle s'est fait virer parce qu'ils ont trouvé qu'elle avait un ton trop libertaire. Alors, elle est portée sur la culture physique et la gymnastique, qu'elle associe à la régénération physique et morale, valeur importante sous la Troisième République. Elle avait une salle d'entraînement dans ses logements. Le corps avait une grande importance. Elle dit « toute ma peau a une âme ». Elle a pratiqué des spectacles de pantomime et de musical très appréciés à la belle époque. En se mettant à demi-nue sur scène, elle a vécu aux confins de la morale bourgeoise et le préfet Lépine a même dû prendre un arrêté lui ordonnant de cacher son sein. Elle, dans son livre La chair, elle montre l'envers du décor aussi des spectacles de musical avec des filles paumées, l'alcool, la drogue. Et bien sûr, ses cinq sens sont toujours en éveil. Elle adore les trios amoureux dans ses livres, hein, mais aussi les histoires d'amour marginales, soit transclasse, transâge. N'oublions pas qu'elle a séduit son beau-fils, le fils de Monsieur de Jouvenel, qui avait 16 ans. Et à l'intérieur du même genre, car Colette était bisexuelle, avec la célèbre Missy, hein, dont elle a fait un livre. Les séductrices expérimentées sont toujours au premier plan. Elles ne croient pas en l'amour absolu et ne divisent pas l'amour. Ses amis sont toujours sur la même longueur d'onde. Elle a eu comme amie Nathalie Barnet, Sarah Bernard, Eva Palmer, Matahari, René Vivien. Et donc on retrouve tous ces thèmes amoureux dans Le blé en herbe, dans Chérie, Le pur et l'impur, où elle décrit les marginaux. Et bon, l'Église catholique lui refusera les funérailles chrétiennes lors de ses funérailles nationales, on comprend pourquoi. Alors, elle ouvrira aussi elle est vraiment très portée sur la sensualité, elle ouvrira une boutique de parfumerie et confectionnera elle-même ses parfums. Et elle considérera que la lutte contre les rides était nécessaire aux lutteuses. Hein. Il dit aux femmes, il faut toujours lutter, que ce soit moralement ou physiquement. L'amour de la nature, alors elle éprouve un profond respect pour la vie végétale et animale. Les animaux sont des héros dans Dialogue de Bête. Les animaux sont des égaux de l'homme. Elle a lancé cette phrase célèbre, il n'y a qu'une bête, hein, qui fait écho au débat d'aujourd'hui. Elle s'insurge contre la chasse et la cruauté animale. Elle défend les droits de l'animal, que l'on retrouve aussi actuellement dans une loi. Et bon, toute sa vie, elle va adorer les chats, tu en as parlé.
Hein. Oui, tout à fait. Et ses idées sociales, alors tu
en Alors, ses idées sociales. Alors, elle ne fait pas ne veut pas faire de philosophie ou de politique. Elle ne veut pas défendre des idées abstraites. Elle aime observer le quotidien ras-de-terre, un peu comme Pérec. Elle dit, je ne suis pas un être politique. Les larges perspectives et les programmes, les grandes harmonies et les apothéoses finales sont des choses que je laisse volontiers aux autres. J'ai appris à connaître la bureaucratie politique, puisqu'elle était femme de Monsieur de Jouvenel, hein, qui était dans la politique. La pire de toutes, les femmes sont une force anarchiste explosive pour tout ce qui est bureaucratique. Alors, elle est contre la participation des femmes à la politique, elle se méfie de tout ce qui est collectif. Des deux guerres qu'elle a traversées, elle préfère évoquer le comportement quotidien des Parisiens. Tu en as parlé un peu dans son livre sur Paris. Elle évoque le courage des femmes et possède une certaine conscience sociale dans Mitsou ou La fin du blé en herbe, quand elle aborde le thème de la démobilisation, évoqué aussi par Pierre Lemaître. Simone de Beauvoir l'admire tout en la critiquant. Dans Le deuxième sexe, elle cite souvent Colette pour plusieurs raisons. Une femme qui a su écrire pour gagner sa vie, des relations homosexuelles assumées, la défense de l'avortement, la méfiance devant l'amour absolu.
Mais est-ce que bon, tu peux passer à l'écriture, parce qu'il est déjà 26.
Oui. Alors l'écriture, Colette possède un art de la description et de la précision pour dépeindre les végétaux, les animaux, mais les états d'âme en évolution. Il y a peu d'intrigue dans ses livres. Colette est l'écrivain de la matière, hein, on la qualifie d'écrivain matériel. Par exemple, les odeurs du chèvrefeuille ont un parfum massif. Et je terminerai avec un article de Le Clésio, écrivain aussi que j'adore. Il faudra bien faire une présentation de son dernier livre. Pour lui, Colette est une magicienne.
C'est quoi quel est le titre de son dernier ouvrage ?
Averse, A-V-E-R-S. Ce sont des nouvelles. Donc Colette est une magicienne, son langage souple et glissant nous enveloppe, ses mots sont à double sens, elle ouvre et referme des portes comme au théâtre ou comme une danse. Donc voilà.
Eh bien,
j'espère que
bon.
Je vous ai donné envie de relire Colette.
Alors, hein? Les cahiers de Lerne, le titre, Colette.
Colette, oui, hein, oui.
Tout simplement. Et oui. Prochain livre que tu vas nous présenter, ça va changer.
Alors, on change de style, c'est l'Arsène Lupin des Galtas de Phil Casoar. C'est l'histoire d'un anarchiste italien qui a vécu à Grenoble. Donc c'est paru aux éditions du CERF.
D'accord, très bien. Eh bien, merci Dominique. Eh bien voilà, chers amis, quelques livres auxquels nous tenions. Et nous souhaitions vous faire partager ce plaisir et cet intérêt. C'est donc terminé pour aujourd'hui dans Au fil des pages. Encore merci pour votre écoute et votre fidélité. Dans 15 jours, le mercredi 22 mars, nous recevrons Hugo Roussel Néry, contributeur dans le livre « La Commune de Paris ». Au prisme du droit paru chez Marais Martin, à la Commune de Paris, n'oubliez pas, 18 mars 1871. Un texte très intéressant, Roussel Néry a publié un texte très intéressant, consacré à Eugène Proto, délégué à la justice de la Commune de Paris. D'ici là, bonne lecture, et l'équipe d'Au fil des pages vous souhaite ni Dieu ni maître, toujours avec Léo Ferré, à bientôt et au plaisir de partager.
Avec la peur qui tend la patte. ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles qui tombe froide sur la dalle et cette rose sans pétale. Cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voile.